les jardinières. Les jardinières sont de retour. Bonjour Noélie.
Bonjour Léo.
Aujourd'hui, on va semer des idées dans vos jardins, ou plutôt des graines, avec Nicolas Roure. Bonjour Nicolas.
Bonjour Léo, bonjour Noélie, bonjour tout le monde.
Vous êtes horticulteur au Jardin botanique de Neuchâtel. Merci d'être avec nous.
Soyez les bienvenus dans les jardinières. On reste ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Nicolas, comme d'habitude, avant de nous pencher sur notre sujet aujourd'hui, rappelons que l'automne démarre dans 3 jours déjà. Alors, quelles sont les principales tâches qui attendent nos jardiniers et jardinières en herbe durant ces prochains jours?
C'est une belle saison pour faire plein de choses que l'automne. Déjà, vous pouvez profiter de récolter les dernières tomates, les dernières courges, récolter le basilic pour préparer le pesto pour le conserver durant l'hiver. Là, c'est à peu près ce qu'il faut. Je conseille de faire ça encore ces 2-3 prochaines semaines. Après, c'est aussi une bonne période pour tout ce qui est plantation d'arbres, d'arbustes ou d'autres plantes vivaces. Et puis, de récolter également pour ceux qui ont la chance d'avoir des arbres fruitiers, dont les pommiers, les poiriers. Ça peut être une période pour les récolter. Et c'est aussi une belle période pour tailler les haies. Comme ça, elles sont pour les propriétaires de haies. Carré, je parle pas des haies vives, mais c'est une belle période parce qu'on les taille, elles gardent toute leur forme pendant leur forme carrée comme ça durant tout l'hiver, donc jusqu'au printemps. Voilà.
Merci Nicolas, vous êtes notre invité jusqu'à 8h. En seconde partie d'émission, vous répondrez aussi aux questions en jardinage de nos auditeurs et auditrices, des questions qu'on attend déjà par téléphone au 0 920 70 20 20 ou par SMS. Il suffit de taper le mot jardin, laisser un espace suivi de votre question et de votre nom. Vous nous l'envoyez au 939. Et puis la troisième manière de s'y prendre pour nous joindre, c'est par formulaire. Des formulaires disponibles sur notre site avec la possibilité de joindre une photo à votre question.
7h, 8h, les jardinières.
On parle toujours jardinage jusqu'à 8h et ce matin, cap sur les graines. Comment les récupérer au potager pour préparer la saison prochaine? Avec nous, Nicolas Roure, horticulteur au Jardin botanique de Neuchâtel. Nicolas, d'abord un repère. Où et quand se forment les graines dans le cycle d'une plante potagère?
Alors, que ce soit pour une plante potagère ou un arbre ou une plante ornementale, c'est toujours dans le fruit qu'on trouve les graines. Alors après, pour certaines plantes, c'est assez facile, on repère on connaît le fruit, que ce soit une tomate, une courge, ou bien un melon, on a les graines à l'intérieur du fruit, et c'est ces graines-là qu'on récupère. Après, pour d'autres plantes potagères, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on les côtoie pas forcément toujours, ou au début, quand on les sème, mais à la fin, par exemple, je pense aux poireaux, ou bien aux oignons, au chou, c'est qu'il faut jusqu'à peut-être 2 ans de culture pour avoir les fruits, donc les graines de ces plantes-là. Donc, alors que pour les oignons, on plante les plantules, et puis on les récolte, puis on n'attend pas forcément d'avoir les graines. Et puis la même chose avec les poireaux, on ne va surtout pas attendre qu'ils montent en fleurs, donc on les voit moins, ces graines-là. Mais elles sont toujours présentes.
Voilà. Et puis pour ce qui est du jardin familial, quelles espèces sont les plus simples pour débuter la récolte de graines?
Alors les plus simples, je dirais, c'est toujours celles qui arrivent le plus rapidement possible. Là, je pense aux tomates, aux courges. En plus, c'est la période de récolter les courges, les tomates, les dernières tomates. Donc celles-là, comme je disais juste avant, on trouve les graines à l'intérieur. Et puis pour commencer, c'est le plus simple, le plus aisé. Il suffit en plus, pour les tomates, de prendre les graines. Bon, on met quelques graines quand on les a récoltées. Bon, on met quelques graines de côté, puis on les fait sécher, puis on les garde pour l'année prochaine. Et puis, avec les tomates, ce qu'il y a de facile, c'est que les plantes qu'on va semer l'année prochaine, elles auront à peu près la même tête que celles qu'on a récoltées cette année. On ne va pas rentrer, il est samedi matin, un peu plus de 7 heures, on ne va pas rentrer dans des notions de génétique et autres, mais voilà, il y a certaines plantes qui vont donner des plantes et donc des fruits l'année suivante, suite de nos récoltes, qui sont similaires. Et puis il y en a d'autres, en fonction des congénères qui y a à côté. Là, je pense par exemple aux courges. Si vous avez plusieurs variétés de courges, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des croisements. Et puis les fruits, ils sont encore similaires à la plante par an. Mais l'année prochaine, ce que vous allez semer, bah, tout d'un coup, il peut y avoir une variation. Comme quand on a deux êtres humains qui font des enfants, bah, il y a une variation. Les enfants ne ressemblent pas forcément toujours à... Non, ils ne ressemblent même pas aux parents. Et donc là, ça peut être la même chose. Si on a plusieurs variétés de courges ensemble, bah, on peut se retrouver avec des courges un petit peu différentes. Mais voilà, après, bah, en général, c'est... Il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste bah, des fois au niveau du goût, au niveau gustatif, bah, on n'aura pas tout à fait la même chose que les autres années. Mais on peut sans doute y aller, puis on peut avoir de jolies petites découvertes.
Il y a aussi les légumes qui demandent un peu plus de temps ou d'organisation pour obtenir les graines, je pense aux choux notamment. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre quand on souhaite se lancer là-dedans ?
Alors déjà, ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'on aura seulement les fruits, donc les graines, l'année suivante. C'est que, là, par exemple, vous avez encore des choux. Si vous avez encore des choux dans votre jardin ou des poireaux, si vous les gardez pour avoir des graines l'année prochaine, il faut encore laisser de la place. Donc déjà, au niveau logistique, déjà, des fois, c'est un peu un casse-tête de se dire « Ah, alors, il faut faire une petite rotation de culture. Est-ce que j'aurai assez de place pour mettre tous les tomates ou les courges ou les poireaux de l'année prochaine ?» Et puis... Puis il faut donc les laisser en place et puis les laisser fleurir et puis après récolter les fruits et les graines. L'autre chose, c'est que ces plantes, elles ont besoin d'en avoir, il faut en avoir plusieurs. Donc c'est pour garantir une certaine diversité génétique, puis sur le long terme, pouvoir les maintenir, si on veut faire ça sur 5-6 années, voire même plus. Donc il faut avoir non pas simplement un chou. Déjà, en plus, là, ça ne va rien donner. Il faut un autre congénère. Donc, il doit avoir au moins un minimum de choux, de poireaux. Et puis, en plus, ce qu'il faut, c'est qu'il... ce qu'on conseille, c'est même d'en avoir 6, voire même 10, 8. Allons-y avec 6, 8. Et puis, donc, il faut les avoir. Ils fleurissent en même temps. Et puis, après, pour récolter les graines. Donc, c'est toute une petite logistique que je ne conseille pas forcément pour commencer. Parce que, un peu de préparation et autres, mais allez-y plutôt avec, si vous débutez dans le domaine, avec les tomates, les courges, et puis pour l'année prochaine, regardez pour les poireaux et puis et les choux.
Les jardinières.
On est toujours ensemble pour les jardinières jusqu'à 8 heures et on parle notamment des graines. Beaucoup se posent la question en cuisine, ce qu'on appelle maturité de consommation n'est pas forcément maturité de reproduction. Nicolas, quels signes observer sur la plante pour savoir que la graine est arrivée à terme ?
Alors ça demande de connaître un petit peu les plantes. Alors avant, je parlais des tomates, des courges, ça, on arrive un peu à se faire une idée, c'est quand la maturité de la tomate... Et quand elle est mûre, les graines elles sont aussi mûres. Les courges, quand elles sont bien mûres, c'est quand on les récolte, les graines elles sont aussi mûres. Après, pour d'autres plantes, ça se complique. Je vais déjà prendre l'exemple de la courgette. Alors, les courgettes, quand on les achète au marché, elles sont petites. Vous voyez, on ne voit pas souvent des graines à l'intérieur. Alors, pour la courgette, c'est un bon exemple, c'est qu'il faut la laisser grandir. On se retrouve plutôt avec ces grosses courgettes de jardin potager. Et c'est là que, c'est à ce moment-là, il faut en plus bien les laisser mûrir. C'est dans ces grosses courgettes qu'on peut avoir des graines. Un autre exemple, c'est tout simple, c'est le haricot vert qu'on récolte durant la saison estivale. Et quand on le récolte, on a les graines à l'intérieur, mais elles sont pas, c'est pas celles-là qu'il faut garder et puis semer, parce qu'elles sont toutes vertes, toutes tendres. Alors c'est mieux pour quand on cuisine, surtout la version haricot vert. Mais il faut laisser sur la plante le haricot sécher. Donc il faut en laisser quelques-uns. Ça c'est aussi toute la particularité quand on récolte les graines, c'est qu'il faut les laisser prendre, aussi prévoir, se dire que je garde quelques haricots pour qu'ils continuent de grossir, de grandir et qu'ils sèchent. Et puis là, on pourra, une fois qu'on a un haricot bien vert, bien sec, plus vert, mais bien sec, c'est là qu'à ce moment-là, on peut récupérer les graines.
À l'échelle d'un jardin familial, Nicolas, qu'est-ce que le fait de produire ses propres graines change concrètement saison après saison ?
Alors, ce qui s'amène... Or déjà, bah, le simplement contentement, ah, bah, cette variété de tomates, de courges, reste sur les tomates, les courges, parce que c'est plus facile. Mais le poireau, on se voit un petit peu moins faire la différence entre les différentes variétés. Mais on peut reprendre l'exemple aussi du haricot. Ah, bah, ça, c'est une variété de haricot que je garde depuis quelques années. Après, on peut aussi passer des graines de tomates à ses amis, à ses voisins, à la famille. Donc, il y a ce contentement-là. Mais surtout, ce que ça peut amener, mais ça, c'est vraiment sur du long terme, c'est qu'on a une variété, ainsi, sur le long terme, qui est adapté aux conditions qu'on a. Que ce soit ici, bah, sur le lac de Neuchâtel, au bord du lac de Neuchâtel, une variété, disons, neuchâteloise. Mais pour ceux qui nous écoutent, bah, aux Franches-Montagnes, bah, on développe une variété qui est adaptée aux conditions des Franches-Montagnes. Et donc, bah, c'est des plantes qui sont plus fortes, qui sont plus... qui donne mieux dans ces conditions-là. Ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est qu'on choisit toujours, quand on récolte les graines, sur les plantes qui sont les plus fortes, les plus costauds, qui vont le mieux, et pas prendre des graines sur les plantes qui sont malades, parce que ben, afin d'éviter, ben, c'est d'éviter de garder des plantes qui sont un petit peu plus faibles, mais vraiment s'attarder, ben, on a plusieurs tomates de la même variété, il y en a une qui va tout bien cette année, ben, c'est de récupérer les graines sur cette tomate qui pousse très bien cette année, pour ben, s'assurer que ben, les autres années, ben, on a toujours cette tomate qui va bien. Et puis celles ben, qui sont tombées malades, ben, au niveau, ben, c'est un peu le travail ce que font les agronomes ou les autres producteurs de graines à travers le monde, c'est qu'ils gardent ils sélectionnent les plantes qui ont la meilleure génétique pour s'assurer que les autres années, ben, les plantes vont tout bien. Et puis ben, ce qu'on pourrait faire ainsi aux Franches-Montagnes ou sur le bord de Neuchâtel. Voilà.
Les jardinières.
Vous êtes avec nous sur RJBR TNRFJ, les jardinières vous accompagnent jusqu'à 8h. Ce matin, on parle graines avec Nicolas Roure, horticulteur au jardin botanique de Neuchâtel. Tout à l'heure, on apprenait comment les récolter, ces graines. Place maintenant à l'étape clé, les conserver correctement. Nicolas, quelles sont les règles simples à respecter à la maison pour garder des graines viables sur la durée?
Alors, la première étape, c'est de bien les nettoyer. C'est de s'assurer... ben, c'est d'enlever tous les restes végétales qu'il peut y avoir autour, d'en profiter, par exemple, je reprends toujours mes exemples de la courge, mais voilà, d'enlever les graines, profiter de la courge, et puis d'enlever les petits bouts de végétaux qu'il y a avec, et puis ensuite, les mettre à sécher. Simplement, ça peut être dans une enveloppe, dans un endroit un peu aéré. Et puis après, avant de les stocker, c'est aussi s'assurer ben, qu'il n'y ait pas de petits insectes, parce qu'il peut y avoir sur l'haricot, comme sur les artichauts, plus les graines sont grosses, plus ça intéresse des insectes et plus vous avez de la chance de retrouver dans vos graines. Et puis après, une fois que les graines semblent bien sèches, alors après, ça c'est toujours, on n'a pas forcément les appareillages à la maison, mais une fois qu'elles ont séché quelques semaines, voire quelques mois, on peut les oublier. Après, on peut les mettre dans une enveloppe et puis on les conserve à l'abri, au sec, à l'abri de la lumière. On peut les mettre dans une petite boîte, quand même, qui soit pas totalement. Il ne faut pas que ce soit une boîte étanche, dans un petit carton, pour si les graines n'ont pas fini totalement de sécher, bah, qu'elles puissent continuer de respirer, et puis de s'assécher. Et puis, dans un endroit assez, bah, ça je l'ai dit, assez frais. Mais ça, c'est toujours l'endroit magique qu'on n'a pas forcément toujours à la maison, l'endroit frais, sans lumière et au sec. Et puis. Il y avait encore un truc, mais j'ai juste zappé. Mais je reviendrai peut-être après.
Eh bien justement, voilà. Nicolas, admettons que ces petits sachets, on les a oubliés 4 ou 5 ans, voire même plus. Comment vérifier rapidement si ça vaut encore la peine de les garder pour les semer, ces graines?
Alors, bah, le point revenait justement, bah, ces conditions que j'ai mentionnées juste avant, c'est aussi des très bonnes conditions. C'est même des conditions excellentes pour conserver les graines qu'on a acheter chez notre marchand grainier, chez l'horticulteur de la région. Et puis, bah, ces graines, quand on les achète, bah, c'est assez facile. En général, il y a une date, pas une date de péremption de consommation comme on peut avoir pour des produits de consommation courants, mais c'est une indication bah, jusqu'à telle et telle date, bah, les graines vont bien germer. Alors, des fois, alors, ça m'a aussi arrivé, bon, avant même cette date, des fois, les plantes ou ne poussent même pas bien avant. Bon, ça peut être des fois un problème de stockage ou de transport et autres. Et puis, mais après, bah, les graines, elles peuvent toujours germer, mais des fois un petit peu moins bien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit test dans un petit pot, juste mettre quelques graines, puis regarder si ça pousse avant de lancer sa culture de haricots en grande quantité. Bah, juste essayer de mettre quelques graines dans un pot. Et puis, ce que je peux aussi conseiller pour les graines qu'on a récoltées à la maison, c'est de mettre l'année, pas forcément le mois, mais l'année surtout de quand c'est qu'on les a récoltées. Comme ça, si on retombe sur le paquet de graines 3-4 ans après, ben on sait, c'est plus facile de se rappeler. Ah ben bon, elles ont 3-4 ans, ça va tout bien. Parce que les graines potagères, on conseille en tout cas 5 ans, il n'y a pas de souci. La plupart même peuvent durer un petit peu plus longtemps, mais allez-y sur 5 ans. Et puis si vous trouvez un sachet de graines de 2020, vous pouvez encore y aller. Ou bien en 2030, si vous trouvez un sachet de graines que vous avez récolté en 2025, vous pourrez encore y aller sans grand souci. Après, il y a toujours un peu des petites variations sur certaines plantes. Le céleri, je n'essayerai pas quand même jusqu'à 5 ans. Mais la plupart des autres, vous pouvez sans autre y aller. Voilà.
Côté semis, beaucoup nous écoutent avec des sols très différents. Quelle base universelle il faut pour réussir ?
Ou alors ça pourrait être le sujet d'une prochaine émission. Mais en résumé, le substrat, il faut déjà différencier les graines qu'on sème directement en place. Par exemple, les courges, les haricots, on sème directement dans le jardin. Donc là, je conseille toujours on fait avec le sol qu'on a, mais si on peut l'améliorer pour qu'il soit quand même assez léger, mais tout en étant riche. Voilà. Après, pour les plantes qu'on sème en pot, on conseille toujours, par exemple, on prend l'exemple des tomates, prendre un substrat de semis, mais les qualités pour un substrat ou une terre pour que ça soit semé, il faut que ça soit quelque chose d'assez assez léger, drainant, aéré, et puis pour que les graines ne pourrissent pas au bout de quelques jours quand on les a semées. Et puis après, d'assurer pour le succès pour le semis, c'est d'assurer que la graine soit toujours, la terre soit toujours bien humide, pas détrempée, sinon les graines elles pourrissent, et jusqu'à ce que les graines aient germé. Puis après, là, on peut espacer gentiment. Ça, c'est toujours en fonction de la culture, les arrosages. Et puis, je voudrais juste mentionner que ce n'est pas forcément une belle période que le mois d'octobre ou fin septembre pour faire les semis. Mais voilà, c'est plutôt des conseils pour l'année prochaine.
7h, 8h, les jardinières.
Et pour une quinzaine de minutes encore, on est ensemble pour parler jardinage et plus précisément des graines. On va maintenant aborder un thème, c'est celui de la sécurité, parce que c'est important. Les cucurbitacées, quand on ressème ses propres graines de courge ou de courgette par exemple, comment éviter les mauvais croisements avec des coloquintes par exemple, Nicolas ?
Alors, j'ai déjà présenté les coloquintes parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui les connaît. Les coloquintes, c'est des courges ornementales. En général, on va les retrouver à partir du fin octobre pour Halloween, début novembre, en décoration un peu partout. C'est vraiment... Il y en a qui ressemblent vraiment à des courges, ils sont plus petits. Et puis, il y en a d'autres qui ont des formes un peu bizarres, avec des cornes, avec des sortes de pustules dessus, voilà. Et ces coloquintes... Et c'est des cucurbitacées, elles sont très proches des courges. Et puis, ce qu'elles ont, c'est qu'elles sont cultivées pour leur aspect ornemental. Et puis, si on les goûterait, j'ai jamais fait l'expérience moi-même, mais elles ont une certaine amertume et qui les rend toxiques. Et puis, ce qui peut se passer, c'est que si vous, dans votre jardin, vous cultivez des coloquintes et des courges, c'est que vous allez avoir un croisement entre les coloquintes et les courges, et puis l'année prochaine, vous aurez des courges qui auront un petit goût, une amertume. Or, il ne faut surtout pas, un petit peu, quand vous commencez votre soupe à la courge, puis vous remarquez qu'il y a une amertume au niveau du goût, il ne faut surtout pas la consommer. Donc, on essaie de s'y prendre à l'avance. Donc, si vous savez que vos voisins, tout près, vous voyez qu'il y a des coloquintes, ou si vous cultivez des coloquintes avec vos courges, puis vous les récupérez les graines, ne le faites pas parce qu'il y a un risque de croisement et donc une certaine toxicité. Je sais qu'il y a quelques personnes, on peut voir de temps en temps dans les journaux qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes à ce niveau-là. Donc à éviter, voilà.
Pour élargir au-delà du potager, quels arbres, cette fois, se prêtent le mieux à la collecte et au semis de leurs graines ? Et peut-être juste un petit mot tout à l'heure sur les fleurs, si on a le temps.
Ouais. Alors, sur les arbres, ils ont la particularité de produire toutes sortes de graines, que ce soit les érables avec ces graines qui vont gentiment retomber au sol, les chênes, des graines plus grosses. Et puis, donc là, si vous avez l'âme d'un pépiniériste, ou d'une pépiniériste, n'hésitez pas, vous pouvez aussi récolter les graines. Alors là, ce que je conseille, c'est de les récolter et directement de les semer. Par exemple, les chênes, ils n'aiment pas qu'on... Les graines de chêne, ça ne se stocke pas sur plusieurs années, les hêtres non plus. Donc, c'est les semer directement dans un petit coin de votre jardin ou bien en terrine. Et puis, en plus, eux, ils ont la particularité, une autre particularité, c'est qu'ils ont besoin, en général, de froid avant de pouvoir germer. Ils sont adaptés à nos conditions européenne, et donc ils ne vont pas germer tout de suite au bout de 7-10 jours comme peut le faire une tomate, mais ils vont pouvoir germer qu'au printemps, après une période de froid. Donc vous les semez maintenant, mais ils vont pouvoir pousser, vous les verrez apparaître, si tout se passe bien, plutôt à partir du mois d'avril, mai l'année prochaine. Voilà.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières qui vous accompagnent jusqu'à 8h. Et ce matin, on a parlé graines avec Nicolas Roux, horticulteur au Jardin botanique de Neuchâtel. On a vu ensemble comment les récolter, ces graines, comment les conserver, quelles précautions garder en tête. Vous retrouverez bien sûr ces conseils en podcast dans le courant de la matinée et sur notre site internet. Et maintenant, c'est à vous qui nous écoutez de nous envoyer vos questions jardinage.
Que ce soit des questions en lien avec les graines ou toute autre chose, appelez-nous pour poser vos questions au 0900 70 20 20, et vous aurez l'occasion de parler directement avec Nicolas. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo, et pour le faire, ça se passe via les formulaires disponibles sur notre site. Et la troisième manière de s'y prendre, c'est de nous écrire un SMS. Il faut taper le mot « jardin » au début du message. Laissez un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous envoyez ce SMS au 939.
Et on a déjà une question qui nous a été envoyée au préalable. Elle nous vient d'Elisabeth de Perry qui nous demande pourquoi les feuilles de ce zinnia sont-elles grises. Alors, je vous ai montré une photo, hein, Nicolas.
Oui, alors, ce n'est pas un aspect ornemental, c'est simplement qu'on est en fin de saison et puis les zinnias sont des plantes annuelles et puis elles sont un petit... Elles sont gentiment à la fin de leur vie. Elles sont en train de produire les graines, même maintenant. Et puis, ce qui arrive à cette saison, c'est qu'elles ont il y a un champignon qui se développe dessus, c'est l'oïdium. C'est pas... Fin septembre, il n'y a plus grand-chose à faire. Elles ont gentiment fini leur vie. Ce champignon-là, ça serait un petit peu plus problématique s'il était présent au mois de juillet, ce qui peut aussi arriver. Mais là, on peut faire un petit traitement. Par exemple, moi, je me suis toujours conseillé les produits biologiques, mais c'est vraiment, on tient ces zinnias qui durent encore assez bien. Ils sont bien placés. On pourrait mettre une petite huile de fenouil à base de graines de fenouil, voilà, qu'on trouve dans le commerce. Et puis, ça va. Protéger, en tout cas éviter que ça se propage un peu plus. Et puis voilà, mais c'est gentiment aussi la fin de la saison pour le zinnia. Donc voilà.
Il faut l'accepter.
Voilà.
Merci Nicolas. On a une autre question qui nous vient par formulaire d'Esther de Renan. Elle nous a joint une petite photo et elle nous dit qu'elle a ses plantes de jardin. Il paraît qu'on peut les laisser dehors l'hiver. Elle habite à 400 mètres d'altitude. Il fait pas forcément froid, pas forcément de neige. Mais est-ce qu'elle peut les laisser dehors? Et si oui, comment faire pour qu'elles restent en vie durant cette période?
Alors là, j'ai pu voir sur la photo que c'était des feuilletignas, donc ça tient sans souci à 400 mètres. Alors, quelques conseils pour les plantes en pot, pour les garder l'hiver. Alors, c'est toujours un petit peu, quelles que soient les plantes, quand elles sont en pot durant l'hiver, c'est qu'il faut toujours faire attention s'il commence à venir un froid très intense, parce que les racines dans les pots, ce qui se passe, c'est que les racines, elles sont... au niveau du pot, donc tout autour, vers le plastique, vers le fibre-ciment, ça dépend toujours du contenant. Et donc, s'il commence à faire très froid, mais là, je parle de moins 10, moins 12, moins 15 pour 400 mètres, donc ce qui est pas mal froid, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu avoir ces dernières années. Et puis là, les racines, elles peuvent vraiment avoir froid et souffrir. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a les plantes qui sont en pleine terre, où là, les racines elles sont sous la terre et puis elles sont un peu plus protégées du froid. Donc là, ce que je peux conseiller, c'est peut-être de s'assurer que les pots ils soient surélevés, un petit peu surélevés, avec une soucoupe, ça fait déjà l'effet, pour pas que ça soit directement en contact avec du béton qui augmente cet effet de froid. Et puis aussi, si on sent qu'il y a une vague de froid qui arrive, on voit la météo, ils annoncent une vague de froid, c'est de protéger le bord du pot avec la jute ou des plastiques à bulles et autres pour éviter que les racines elles aient trop froid, parce que ça peut les endommager, puis donc entamer la vie de la plante. L'autre chose, ce qui peut se passer, c'est que... mais ça, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en hiver, on peut oublier d'arroser ses plantes. C'est que si tout d'un coup, il fait sec et froid, par exemple la bise qui souffle, voilà, et puis tout d'un coup, s'il gèle, s'il fait moins, en dessous de 0 degré, ce n'est pas un souci, mais dès que il recommence à faire beau, et puis le terreau, le substrat, il est tout sec, la plante, elle va se remettre à... Surtout, les futinières, sont des plantes qui ont toujours un feuillage, elles vont un peu transpirer et autres, elles ont besoin un petit peu d'eau. Et puis, si on oublie de les arroser, ou s'il n'a pas du tout plu, il peut s'avérer que les plantes, elles sèchent. Donc, il ne faut pas toujours avoir un petit œil. Ça ne veut pas dire qu'on les arrose au même rythme qu'en été. Absolument pas. C'est même le contraire, mais c'est s'assurer que tant soit peu humide, même au plein cœur de l'hiver, sauf pendant les périodes de gel, on ne peut pas faire grand-chose, mais c'est en dehors des périodes de gel, s'assurer que la plante, elle est toujours de quoi s'hydrater. Voilà. Et puis, une autre chose, c'est des plantes qui sont assez résistantes, c'est s'assurer que ça ne sert à rien de couvrir la plante en elle-même, parce qu'elle supporte bien les conditions hivernales qu'on a à 400 mètres dans nos régions. Et donc... En plus, elle va, comme je l'ai dit, elle va continuer de vivre parce que c'est les plantes persistantes, elles continuent de vivre, de transpirer, autre un autre rythme qu'à la belle saison. Mais si on les emballe, ce qui peut arriver, c'est que ça pourrisse ou autre, que la plante, qu'il y a des ravageurs qui se développent et autres. Donc moi, je conseille toujours d'éviter de les emballer le moins possible ou sur une toute petite période. Comme ça, les plantes, on évite des soucis quand on les déballe au mois de mars, voilà.
Ce matin, dans les jardinières, on a parlé graines, quand elles se forment, les espèces à choisir pour débuter avec les tomates par exemple, celles qui demandent plus d'organisation comme les choux, les bons gestes de prélèvement, le stockage, les erreurs à éviter et aussi toutes les réponses aux questions de nos auditrices, auditeurs. Encore merci Nicolas pour tous ces conseils. Vous retrouverez d'ailleurs ces fameux conseils, je vous le rappelle encore une fois, sur notre site en podcast. Nicolas, juste avant de vous laisser filer pour de bon, pour celles et ceux qui jardinent un peu ce week-end, quelles sont les priorités au jardin ces prochains jours?
Alors là, les priorités, moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est que je vais aller récolter mon basilic pour faire du pesto, mais parce qu'il en reste encore un petit peu. Et puis l'autre chose aussi, c'est de préparer je l'ai dit en entrée, en préambule, les plantations. Voilà, mais je reviens sur ces deux points. Ouais.
Merci Nicolas, on rappelle que vous êtes horticulteur au jardin botanique de Neuchâtel. Merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. Très bonne journée à tout le monde.
Merci Nicolas. La semaine prochaine, c'est Cathieu Racine, guide de randonnée nature à Mervelier, qui sera l'invité des jardinières. À la semaine prochaine, Noélie.
À samedi prochain, Léo. Bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.